11h, 12h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien de vous retrouver ce lundi sur Europe 1. Hier, pour la fête des pères, il a passé une excellente journée en famille, oui, jusqu'à ce qu'il mange par erreur le colis de nouilles offert par son fils,
bravo,
le gourmand gaffeur Jean-Philippe Vizini.
Bonjour les amis, bonjour, bonjour.
En cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, elle a décidé de s'inscrire sur un nouveau site de rencontre, celle qui ne vit que d'amour et d'eau fraîche, Léa Landau.
Oui, surtout d'eau fraîche.
Bonjour.
Il a révisé son bac tout le week-end. Allez, cette année, c'est la bonne. Il ne lâche jamais rien. Ben H.
Ouais, ouais. Bonjour à tous.
Comme Johnny Hallyday, il aimerait qu'on donne son nom à une esplanade, à une place ou au moins à un bon public. Chez nous, il fait partie du mobilier urbain. Laurent Barra.
Bonjour. Ah, joli. Bonjour.
Sa fille passe le bac français cet après-midi. Tout à l'heure, elle demandera « Ça s'est bien passé ?» et on lui répondra « Oui, oui. » Celle qui aurait pu avoir son bac avec mention MDR, Anne Romanoff. Ouais.
Moi, j'ai le trac pour le bac de ma fille, mais
ça
je peux rien faire.
Passer.
Au sommaire de cette émission, Jean-Philippe Vizini nous racontera ce qu'il a fait hier pour la fête des pères. À 11h30, nous recevons le chanteur Hervé pour son premier EP Mélancolie FC et la journaliste et écrivaine Sarah Briand pour son livre Romy, une longue nuit de silence qui vient de sortir aux éditions Fayard. Et à partir de 11h50, ce sera l'écrivain Alexandre Jardin qui sera notre invité pour son livre Le roman vrai d'Alexandre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Ben H nous parlera du vrai Alexandre Jardin et Léa Landau lui fera une interview sans mentir.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Aujourd'hui, c'est le bac français et le bac philo, deux matières qui vont ensemble, parce que depuis l'élection de Macron, quand on est français, il vaut mieux être philosophe. Pour le bac, si vous avez l'impression de ne pas être à l'auteur, ne désespérez pas. Déjà, vous pouvez réussir en bénéficiant de ce qu'on appelle l'effet François Hollande. C'est-à-dire que tous les autres se plantent autour de vous et vous êtes vainqueur par défaut.
C'est possible.
Sinon, si vous voulez tricher, utilisez la technique Macron, vous recopiez le programme de la droite. Important aussi, c'est de respecter le plan de la dissertation. Introduction, développement et conclusion. Par exemple, évitez de faire une erreur du type grand débat national dans laquelle vous donnez les conclusions avant l'introduction. Pour les sujets cette année en philo, vous pourriez tomber sur, par exemple, Yannick Jadot, c'est un vert qui monte ou un bleu qui va se faire avoir. Peut-on limiter la vitesse quand on veut accélérer les réformes?
Pas mal.
Bien mal acquis, profite-t-il toujours aux Balkany? Un sujet spécial, gilet jaune, à la fin d'une pièce en 30 actes, y a-t-il encore des spectateurs dans la salle? En tout cas, quels que soient vos résultats, rassurez-vous, les gens qui nous gouvernent ont tous le bac et c'est pas pour ça qu'ils ont les réponses à nos questions.
Bien joué.
Anne Romanoff sur Europe.
Alors, les épreuves du baccalauréat commencent aujourd'hui avec le français pour les élèves de première cet après-midi. Ma chérie, tu te concentres. Non, mais là, ce matin, en partant, j'ai dit surtout, tu relis bien ta copie, ouais, tu corriges les fautes d'orthographe, tu écris proprement et tu réfléchis à ce que tu dis.
Bah oui, c'est le minimum.
Bon, alors, justement, à propos du bac, est-ce que vous aimez la philosophie? Vous avez des bonnes notes à l'école en philo? Vous vous souvenez du sujet que vous avez eu au bac, Jean-Philippe?
Moi, j'étais hyper nul en philo.
Ah bon?
Quand la prof,
je suis très étonné.
Quand la prof nous a dit qu'au programme, il y aurait Descartes, moi, j'ai ramené un jeu de tarot.
Petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Hein. C'est touchant que les gens s'unissent comme ça pour toi, Léa. Hein. Ah bah si, depuis le temps, là, voilà quoi. Hein. C'est devenu le Sahara, il est vraiment temps d'agir.
Oh là. C'est pas élégant.
C'est
non.
Pas classe, hein.
Mais attends,
c'est pas élégant, c'est vrai, mais c'est pas élégant. Aujourd'hui, c'est la première journée des épreuves écrites du bac avec les profs de philosophie. Souhaitons bon courage à tous les profs.
Mais non, aux élèves.
Bah non, aux profs. Attends, ayons une pensée pour eux qui vont devoir corriger des copies avec des citations philosophiques de Booba, PNL et Aya Nakamura.
Dans les Yvelines, un homme a été condamné à de la prison ferme pour le vol d'un sandwich et d'une bouteille de jus d'orange parce qu'il avait faim. Ah, j'ose pas du tout imaginer alors ce que risque Patrick Balkany qui lui avait l'habitude de bouffer à tous les râteliers.
Le premier dessin du peintre Gauguin a été adjugé à 80 000 euros aux enchères. Franchement, il a bien de la chance parce que moi, j'ai mis le premier dessin de mon fils sur le bon coin. Même à 10 centimes, il n'est pas parti.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Laurent Barra, Lando Ben H et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ».
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien. sur Europe 1 ce lundi, pendant que des milliers de personnes passent le bac, nous on est là et on est bien content que ce soit derrière nous.
Ah ben on y est bien passé hein.
Pas moi.
Comment ça pas...
Si, j'ai eu le bac.
Il l'a pas eu, mais il l'a pas eu.
Avec mention.
Ah ouais, tu les as payés combien?
Mention, pas mal, j'ai eu. Ouais.
Mention, ça passe.
Mieux non, faire. Assez bien.
C'est un bac quoi que t'as eu?
Un bac, c'est tout, vas-y, allons enchaîner.
C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Laurent Barra?
Devinez qui je suis.
Europe 1, un moment.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué le week-end. À cette semaine, tentez de gagner un séjour pour deux personnes, détente, bien-être, évasion à l'hôtel 4 étoiles, Thalasso Spa, les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon, proche de Perpignan, deux nuits en formule petit déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne. Modelage sous infusion, bain multijet, chromothérapie, hydrogel aquagym, avec accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur www.hotel-flamand-rose.com. On joue avec Christine. Bonjour Christine.
Bonjour Anne.
J'ai dit
bonjour Anne
Roumanoff.
C'est Anne Roumanoff.
C'est elle.
Je vous jure que c'est elle.
Vous avez 35 ans, Christine. Vous êtes esthéticienne à Nanterre.
Oui, c'est ça.
Et alors, il paraît qu'un jour, une cliente vous a demandé de lui faire un ticket de bus.
Voilà.
C'est pas vrai. Ah, j'adore.
Parce que normalement, on dit un ticket de métro.
C'est ça. Métro, ouais.
Voilà, un ticket de métro. Donc, le ticket de bus, ça m'a vraiment fait sourire.
Et c'était justifié ou pas?
Oui.
Ah ouais.
C'est quoi la différence entre les
c'est
deux?
C'est moins cher.
Bah, c'est moins cher. Un métro, c'est petit. Un ticket de bus, c'est...
On va plus loin. Voilà. Oui, bus, non. Les trucs qui t'envoient au Havre.
Je vais le noter dans le...
Un Flixbus.
Bah ouais.
Et alors, qu'est-ce que vous faites comme soin de l'épilation, des massages, les ongles?
Il y a Laurent Barra qui n'ose pas demander, vous faites le sillon à ta fessier?
Ben oui, aussi.
Ça me rassure.
C'est Jean-Philippe qui a parlé?
Non,
c'est Ben H.
Pour une fois que ce n'est pas moi qui dis.
C'est plus jeune, c'est Ben H.
Non. Moi, mon sillon machin chouette va très bien. Je n'ai aucun problème de...
Vous vous faites opérer une anesthésie générale, je pense qu'ils doivent vous raser aussi le pubis, non?
Bah ouais, exactement.
Moi, pour l'instant, c'est pour ça que je fais gaffe, moi.
Les hommes font de plus en plus de soins esthétiques, Christine? Vous avez surtout des femmes?
Oui. On va pas se mentir, 80% ce sont des femmes, puisque les hommes sont un peu trop douillés. Mais les hommes viennent...
C'est vrai.
Les hommes, ils viennent faire quoi?
Les aisselles, le torse...
Le dos aussi.
Je déteste les hommes avec une touffe de poils sous les bras, c'est horrible.
Moi aussi. Par contre, les femmes avec les touffes sous les bras, c'est pas mal. Hein.
Tu mets une ambiance bizarre dans le studio. Je te le dis, hein, les autres n'osent pas le dire, mais moi je le dis. Hein.
Mais ça vous écœure pas à force, les poils et tout ça?
Ah ouais. Si, les poils, c'est pas ma passion. Franchement, je préfère aller faire les soins du visage.
Ah oui.
Où là, c'est plus relaxant et puis ça amène plus de détente que de torture.
Ah ouais. Et même les ongles de pied, c'est pas...
Non, les pieds non plus. Ah non, j'ai une phobie des pieds. Je les prends pas.
Phobie des pieds.
Vous prenez pas les pieds? Mais comment ça?
Non.
Vous prenez le pied.
Moi, dès qu'il y a un pied qui se présente, je prends tout ce qu'il y a. Comment ça, vous prenez pas les pieds, c'est-à-dire?
Non, j'aime pas. J'ai peur.
Vous avez peur des pieds?
Vous avez peur
des...
Oui, j'aime pas.
C'est
les
sale.
Pieds.
Vous avez connu une mauvaise expérience avec un pied?
Non, mais que vous n'aimiez pas, on peut comprendre. Mais peur, c'est autre chose, quoi. Vous avez peur
non,
de quoi?
J'aime pas les pieds. Il y a des pieds moches et moi, j'ai des très 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 beaux pieds, toujours faits. Et je comprends pas qu'on puisse
avoir des pieds moches.
Voilà, et puis il y en a
on
qui
on choisit pas ses pieds.
Il
hein.
Y en a qui quoi?
Qui confondent une beauté des pieds et un nettoyage des pieds.
Ah ouais, c'est horrible.
Le mec qui vient de faire le marathon de Paris.
Christine.
Oui.
Liste 1 ou liste 2?
Liste 1.
Et vous jouez avec qui?
Allez, Jean-Philippe.
D'accord.
Vous avez le goût du risque.
Voilà.
Pourquoi?
Non,
ça peut aller. Mais en plus, je gagne souvent. Hein.
Ah oui?
Ah honnêtement,
bah
oui.
Oui, et c'est vrai, il se débrouille bien.
Ah oui. Ah
ouais, alors attention, des personnalités qui ont marqué le week-end. Attention, top chrono.
C'est la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye.
Laura Smet.
Ok, c'est l'ancien président des États-Unis, Black.
Barack Obama.
Elle présente Zone Interdite sur M6.
Mélissa Turo.
Non, après. Bon, c'est pas grave.
Wendy Bouchard.
Non, il faisait Kaamelott, le mec qui fait Kaamelott. L'acteur. La petite qui fait... oui,
Mimi Mati.
Ah, c'est, il danse avec les stars, il a une coupe de cheveux un peu chelou, il... Le truc de Meghan Merkel, son mec là, c'est...
Harry.
Ouais. Le danse avec les stars, la salsa, machin.
Quatre bonnes réponses, c'est pas mal. Vous avez bugué sur Ophélie Meunier, mais elle est pas si connue que ça. Et puis Alexandre Astier, vous avez dit Asti, mais bon, c'est pas tout à fait
si,
ça.
Parce que non. Pas mal de ses copains l'appellent. Et c'est son petit surnom. Il y a beaucoup de copains qui l'appellent. Eh Asti, viens.
Quatre bonnes réponses.
Elle a dit Asti quand même.
Mais non, vous n'êtes pas nul, vous n'allez pas pleurer.
Non, c'est bien quatre.
Non, c'est pas mal du tout, Christine. On va voir comment se débrouille Damien. Bonjour Damien.
Bonjour à tous.
Bonjour Damien.
Bonjour Damien.
Damien, vous avez 35 ans. Vous êtes en couple avec votre compagnon depuis 10 ans.
Voilà, c'est ça.
Et vous, avez la passion des hippopotames, Damien.
Ah oui.
Oui, voilà, je suis passionné d'hippopotames. À chaque fois qu'on peut en voir, on va en voir. Du coup, au zoo. Du coup, on a une collection d'hippopotames à la maison.
Oh, ça, j'avais jamais entendu. Mais c'est vrai.
Et qu'est-ce qui vous passionne chez cet animal?
Eh bien, je trouve que c'est gracieux.
C'est
magnifique.
C'est gras, c'est pas gracieux.
Rassurez-moi, vous surnommez pas Manu l'hippopotame.
Au moment où ça nage, un hippopotame.
Et votre ami ressemble à un hippopotame?
Oui.
Pas du tout.
Ils se sont rencontrés chez Hippopotamus.
Il a pris un peu de ventre là quand même. Donc.
Ça doit vous plaire ça.
Il faut lui dire de faire attention. Hein.
Mais il n'arrête pas de manger dessert, il est sucré, il est salé.
Mais vous savez ce que ça veut dire ça, Damien? Ça veut dire qu'il est heureux.
Non. Ah oui, il est heureux, c'est ça, mais un peu trop. Du coup,
il est très heureux.
Bon, Damien, vous jouez avec qui?
Alors, je joue avec Claire.
Okay. Alors, il faut faire plus de combien?
Je l'aime beaucoup. Et...
Ah, merci
plus de,
Damien.
Plus de 4 bonnes réponses.
Même si avec Asti, normalement. Enfin, bon,
bon allez, arrête.
Alors. Attention, vous êtes prêts? Top chrono.
L'acteur d'Intouchable, le Black.
Omar Sy.
Oui. La fille de Johnny. Non, la femme. La femme, pardon.
Ah, c'est Lucie Chalidet.
Oui. Lui, c'est le président de la Fédération Française de Rugby.
C'est Porte.
Oui.
Comment? Non.
Attendez, j'enchaîne.
C'est Didier Porte.
Non, c'est pas grave. Le judoka connu. Le judoka le plus connu.
Passe.
Bon, l'acteur, le chanteur du Roi Soleil, la comédie musicale.
Passe aussi.
Bon, celui qui a gagné la chanson de l'année.
La chanson de l'année, ah oui, c'est son.
Oui,
bonjour, au service au commandant.
Est-ce qu'on peut revenir sur Didier Porte,
sélectionneur de les. Président de la Fédération française.
Il y avait une rime qui était juste, mais c'est Bernard Laporte.
Didier Porte, c'est un des chroniqueurs de l'émission.
Teddy Riner, le judoka. Emmanuel Moir, le Roi Soleil. Non, mais désolé, mais je suis contente pour Christine parce que non.
Merci.
Non.
Bah là, elle va le prendre son pied.
Je voulais dire, je vous adore. Et en plus, la grande palme, c'est à Jean-Philippe. Il est excellent. Moi, il m'éclate à chaque fois.
Mais pareil pour nous, hein, vous savez.
Maman, on va se faire gauler. Je t'avais dit de pas en trop en faire, ça va se voir. Arrête.
Non, mais vous êtes trop marrant. À chaque fois que je vous écoute, quand vous voulez donner des demi-points, des points et tout, et je suis morte de rire toute seule dans le bus. Comme
c'est
une
toujours
malade,
la magouille un peu.
Voilà.
C'est toujours la magouille.
Bravo, Christine. Faites-nous un petit cri de joie.
Oui,
Christine, vous avez gagné un séjour pour deux personnes à un hôtel 4 étoiles Thalasso Spa, les Flamants Roses à Canard-Roussillon, proche de Perpignan. Deux nuits en formule petit déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne. Accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur www.hôtel-flamant-rose.com.
Merci.
Bravo.
Au moins, elle est joyeuse. Damien.
Bon, Damien, pas trop déçu.
C'est pas grave, une prochaine fois.
On vous embrasse, Damien. Puis dites à votre chérie d'arrêter les spaghettis et les pizzas, là, c'est vrai.
Ça marche. Ouais. Je vais le dire tout de suite.
On vous embrasse, profitez bien.
Ciao, bello.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Léa Londo, Laurent Barra et Jean-Philippe Bisini qui nous racontera son dimanche en famille pour la fête des pères.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi. Avec Laurent Barallet, oui. Alando Benel, oui. Jean-Philippe Vigny.
Oui, bonjour.
Samedi, l'esplanade Johnny Hallyday a été inaugurée à Toulouse en présence de Laetitia Hallyday. Si vous deviez donner votre nom à un lieu, un monument, ce serait quoi et pourquoi ? Par exemple, Jean-Philippe.
Bah moi, j'aimerais bien vivre dans une ville avec que des noms de célébrités. Enfin, y aurait l'avenue Jean-Philippe Vizini, l'aéroport donc, hein. Johnny Hallyday, il voulait le faire, hein, avec sa tour de contrôle Gilbert Montagnier, la centrale électrique Claude François et la piscine olympique avec son plongeoir Mike Brandt.
Laurent ?
Moi, je me suis tellement fait jeter par mes ex.
Ah, oh, tout le monde est scandalisé.
Mais oui,
ouais,
oui.
C'est honteux, t'as pas honte ?
Ouais, c'est
parce qu'ils se disent, dis donc, une avenue Jean-Philippe Vizini, à Caen, à Caen.
À Caen ou ailleurs ?
Ah, ouais. Mais à Caen, c'est pas mal.
Laurent ?
Moi, je me suis tellement fait jeter par mes ex-copines que le seul endroit qui pourrait porter mon nom, bah, c'est une déchetterie.
Oh, oh, il va nous faire pleurer.
Mais allez-y, pleurez.
Ben H.
Bah moi, Léa, du coup, j'ai une idée. Pour toi, je donnerais ton nom à un musée réservé aux hommes. Je vois plus que ça pour que tu sois enfin visité par les mecs. Et puis, j'ai une idée pour Laurent aussi.
Ah, tu penses à quoi, là ?
L'impasse Laurent Barra, là où les femmes font demi-tour.
Vous voyez ?
Et pour vous, Ben H.
Eh ben, je donnerais mon nom à une église, juste pour qu'une bonne sœur me sonne les cloches.
Jean-Philippe Vizini, hier, vos enfants vous ont fêté la fête des pères.
Oh là là, ouais, c'était horrible. Pour la fête des pères, alors pas que mes enfants, tout le monde m'a fêté la fête des pères. Ma femme, elle m'a offert un abonnement à la salle de sport. Ah, je sais pas comment je dois le prendre. En même temps, pour la fête des mères, la dernière fois, comme cadeau, je l'avais inscrite à Comme j'aime. Donc bon. Mes beaux-parents, ils m'ont offert un livre intitulé 40 ans, il n'est jamais trop tard pour avoir un vrai métier. En même temps, c'est de bonne guerre. Hein, pour la fête des grands-mères, je leur avais offert le guide des maisons de retraite 2018. Mon fils m'a écrit un poème et à la fin, il m'a demandé si j'étais content d'être un papa. Si je regrettais pas l'époque où j'étais un enfant. J'ai trouvé ça touchant. Hein. Du coup, hier soir, en me couchant, j'ai fait le bilan de ma vie. Ça fait peur. Hein. Vous rendez compte, j'ai 39 ans. À mon âge, Macron était déjà président. Moi, je suis ici à la radio, j'ai même pas droit à un verre d'eau. Non, mais c'est pour te montrer que je reste modeste. Hein. Il me reste encore au moins un an pour essayer pour devenir président, tu vois. Mais comment voulez-vous que j'y arrive ? J'ai même pas de programme. Enfin bon, même lui non plus, à la limite. C'est quand même passé. 40 ans, ça fait peur. Hein. C'est le moment où vous vous rendez compte tout ce que j'ai vécu en 40 ans. Je suis passé des cabines téléphoniques à l'iPhone 12. Je suis passé du Minitel à Internet. Je suis passé de Michel Drucker à Michel Drucker. Ah, attends, tu peux manger au McDo et être beau gosse en maillot. À 40, tu bouffes un Micnac et t'es gaulé comme un sac.
Tu bouffes un quoi ?
Un Big Mac, je l'ai raté, j'ai dit Micnac.
Micnac ?
Micnac, c'est un autre sandwich.
C'est moins connu, hein.
C'est moins connu.
Si tu vas au McDo et tu dis je veux un Micnac.
Micnac, eh ben, ils te servent un Big Mac parce qu'ils ont l'habitude. C'est des professionnels. À 20 ans, tu fais la fête avec des meufs canons et tu rentres à 6h du mat. À 40, c'est la fête des pères avec un poème à la con et un collier de pâtes.
Mais ça arrive!
J'ai fait des alexandrins!
Oh là là.
Incroyable! J'ai l'honneur du bac français!
Ouais. Je suis un poète! J'ai pas fait exprès! À 40 ans, tu te dis que plus les années sont derrière toi, que tes plus belles années. C'est du Baudelaire et vous me flinguez là! À 40 ans, tu te dis que tes plus belles années sont derrière toi, mais tu retrouves le sourire quand pour la fête des pères, tes enfants te disent on t'aime papa!
Oh! Bravo!
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Londo, Jean-Philippe Vizini, ouais, qui est devenu un poète,
ouais.
Ben H, Barbara, et nos invités, le chanteur Hervé qui vient de sortir son premier EP Mélancolie FC, et la journaliste et écrivaine Sarah Briand pour son livre Romy, une longue nuit de silence, qui vient de sortir aux éditions Fayard.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Vous ce lundi sur Europe 1 avec Laurent Barra,
oui,
Ben H, Jean-Philippe Vizini et nos deux invités qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mais on les a mis ensemble parce qu'on avait envie de les inviter tous les deux et on n'avait plus assez de place. L'une écrit, l'autre chante. Sarah Briand va nous présenter son livre Romy, une longue nuit de silence consacré au dernier jour, aussi méconnu que fascinant, de Romy Schneider. Et Hervé qui vient de sortir son premier EP, c'est ça qu'on dit ?
C'est oui. comme ça, EP.
Je sais pas ce que c'est EP.
C'est un titre, c'est un EP.
Extended play, c'est six titres, c'est plus court qu'un album. C'est quand t'as pas envie de faire un album.
C'est quand t'es pressé.
Ouais, voilà.
Pour votre époque, c'est un peu le 33 tours, Anne.
Bon, bah merci. Votre premier EP, Mélancolie FC, six titres qu'il décrit comme de la chanson électronique. Il sera sur scène le 21 juin à Paris aux Champs-Élysées Film Festival. Applaudissez Sarah Briand et Hervé. Merci. Merci beaucoup. Alors Sarah Briand, vous venez nous parler de ce livre que vous avez consacré. Bah ça va, arrêtez d'applaudir.
Ah ouais. On a déjà pas beaucoup de temps. Stone, hein,
ouais. Vous venez de nous présenter ce livre, Sarah Briand, qui s'intitule Romy, une longue nuit de silence, consacré à Romy Schneider aux éditions Fayard. Vous avez enquêté sur elle, vous avez rencontré ses proches, vous avez...
Oui, alors c'est vrai que Romy Schneider, il y a déjà eu beaucoup de biographies, beaucoup de livres qui ont été écrits sur elle. Là, j'ai voulu raconter évidemment l'actrice, la comédienne, en rencontrant pas mal de réalisateurs, de gens qui ont travaillé avec elle. Et on se rend compte que quand on enquête, on retrouve des choses encore méconnues finalement sur elle. Et puis surtout, j'ai voulu savoir un petit peu qui était cette femme. Qui était cette femme qui, lorsque les caméras s'éteignent, lorsqu'il n'y a plus de lumière, alors qu'elle était d'une photogénie exceptionnelle, eh bien, comment elle se comportait, raconter un peu ses blessures, son enfance, ce qu'elle a vécu ensuite. Et pour ça, j'ai voulu retrouver pas mal de ses proches, et notamment Alain Delon, en fait, qui m'a consacré un entretien assez inédit sur elle.
Au moment où vous n'y croyez plus, parce que vous avez terminé
la
le
fin
livre.
Du livre, en fait, après un an et demi d'enquête, j'avais terminé l'écriture du livre et je lui ai écrit un dernier mot, parce qu'en fait, c'est quelqu'un avec qui je parlais régulièrement. J'avais fait un documentaire sur Mireille d'Arc, donc de temps en temps, on échangeait. Et au bout d'un an et demi, je lui ai dit là, je n'envisage pas de rendre le manuscrit sans vous raconter ce que j'ai fait, ce que je veux raconter de Romy. Je lui ai écrit une lettre, elle a touché, il m'a appelé tout de suite et je l'ai vue dans la journée. On a passé deux heures assez émouvantes parce qu'en fait, Romy Schneider, c'est quelqu'un qu'il évoque très brièvement souvent à travers dans les interviews. Et là, en fait, il a raconté beaucoup plus longuement l'absence, le manque, l'amour qu'il avait pour elle. Et c'était assez émouvant.
C'est quand même lui qui l'a quitté. Parce qu'à chaque fois, il nous fait... ça m'énerve. Enfin,
oui, c'est vrai. C'est lui qui l'a quitté. Elle était très blessée de cela.
Très malheureuse
pendant plusieurs mois.
À chaque fois, ils nous ont fait des tartines. Romy. Mais pourquoi il l'a quitté alors?
Oui, il l'a quitté, c'est vrai. Mais c'était assez émouvant quand même de voir qu'il regrettait aussi. Parce qu'il a des regrets. Et puis de raconter cet amour. On sent à quel point elle lui manque aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens autour de lui qui ont disparu. Et quand il était assis face à moi, comme ça, sur le canapé, il évoquait cette place vide, en fait. Elle est toujours là à côté de lui. Et il a surtout une photo d'elle qu'il garde sur lui, précieusement.
C'est une jolie histoire que vous racontez. C'est que quand elle joue Christine, elle est une star européenne. Et on lui dit, tu peux choisir ton partenaire. On lui montre des photos. Et sur photo, elle choisit Alain Delon.
Oui, parce qu'elle vient de terminer Sissi. En fait, elle a dit non à un quatrième Sissi. C'est une star incroyable en Europe. Et comme elle est une star, il y a un réalisateur français qui lui propose de jouer Christine. Et il lui fait choisir son partenaire. Il lui donne un petit peu ce privilège. Mais Alain Delon, à ce moment-là, n'est pas connu du tout. C'est un jeune garçon, un jeune comédien qui traîne un peu comme ça dans Paris. Juste beau gosse. Et je pense que c'est ce qui lui a plu.
Bien sûr.
Donc, elle a choisi cette photo. Sa mère tiquait un peu. Et ensuite, voilà, c'est le début d'une histoire d'amour.
Et après, c'est le contraire. Au moment de la piscine, elle est tombée un peu en désuétude. Plus personne ne fait appel à elle. On dit qu'elle est plus bankable. Et c'est lui qui exige que ce soit elle qui lui donne la réponse.
Exactement. En fait, au départ, c'est elle qui construit finalement Alain Delon. Il le dit, hein, il lui doit tout dès le départ, sinon il n'aurait jamais été comédien. Mm-hmm. Et finalement, après, les rôles s'inversent. En 68, lorsque elle est une mère de famille en Allemagne, elle est mariée à un metteur en scène pas connu du tout, qui est très dur avec elle. Elle est complètement oubliée du cinéma français. Et quand on propose à Alain Delon la piscine, il dit ce sera Romy Schneider, je ferai ce film avec elle ou je ne le ferai pas.
Alors Hervé, vous êtes un jeune chanteur dont tout le monde parle.
Hein, je sais pas.
Si on m'a dit c'est Angèle au féminin.
Je sais pas.
Ça vous plaît pas qu'on dise ça?
Si, moi j'aime beaucoup Angèle.
Oui, Angèle au masculin, pardon.
On vous appelle Angelo.
Ouais, c'est ça. Il y a un truc.
Et vous travaillez au Bois de Boulogne.
J'ai pas mis longtemps du coup.
Alors il y a des concerts 21 juin à Paris au Champs-Élysées Film Festival. Ouais. Hervé, 5 juillet à Paris, Festival Fnac Live. 10 juillet à Paris, Day Off Festival. 12 juillet à La Rochelle, au Francofolie. Ça, j'imagine, c'est très important. 4 novembre aux Étoiles à Paris. Et là, on va écouter un premier single, Mélancolie FC.
Ouais.
C'est quoi FC?
Football Club.
FC Football Club.
Eh ouais, tu vois.
On écoute.
L'été passé dépendant, le pansement sur une jambe cassée. Les partenaires, les partants, les parties trop tôt, les particuliers. À tous les aficionados, la ferveur sur la civière. Mélancolie FC. Mélancolie.
Il y a un vrai côté Patrick Sébastien.
Ah ouais, c'est... Oh, tu sens la joie de vivre.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités. Sarah Briand veut nous parler de cette biographie qu'elle vient de consacrer à Romy Schneider. Romy, une longue nuit de silence aux éditions Fayard. Et Hervé, le chanteur que tout le monde s'arrache pour son dernier EP qui s'intitule Mélancolie FC. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Laurent Barra, oui. Alando, Ben H, ouais, Philippe Vizini et nos deux invités qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre mais qu'on a invité ensemble.
Et qui ont peut-être un rapport à la fin de l'émission, on ne sait pas.
Allons savoir. Sarah Briand pour sa biographie Romy, une longue nuit de silence aux éditions Fayard avec une très belle photo en couverture en noir et blanc. Et vous Hervé pour votre EP.
Ouais, EP.
Mélancolie
c'est pas très élégant, mais ouais, c'est un album en plus court. Quoi.
En plus, vous êtes très souriant.
Ouais, c'est vrai. J'ai tendance, ouais. Ouais, je sais pas si c'est un poker face ou autre. Non, mais je suis content d'être là.
Ouais, vous avez fait une chanson là-dessus, d'ailleurs, parce que votre mère vous disait tout le temps souris, souris.
Ouais. Bah ouais, il y avait beaucoup ce truc-là. Hein. Je pense que ça vient de les. Au final, c'était un peu. C'est sorti comme ça quand j'ai écrit le titre. C'est venu un peu comme un mantra, quoi. Je pense que ça vient de l'éducation, quoi, que j'ai eue. On dit, voilà, même si tu galères un peu, même si ça va pas fort, même si t'es fatigué, bah, tu souris, ça va, quoi. Un peu relativisé. Ben, je crois que ça marche, hein. Il y a un effet peut-être placebo, je ne me regarde pas sourire, mais je sais que quand on sourit, moi ça me fait du bien.
Moi j'arrête pas de sourire aux femmes et elles ne viennent pas. Hein.
Qu'est-ce que vous avez appris sur Romy Schneider que vous ne connaissiez pas, Sarah Briand, en écrivant ce livre ?
Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Moi j'ai été quand même assez étonnée par tout ce qu'elle... Par la blessure en fait qu'elle avait, que je connaissais un petit peu mais que je ne soupçonnais pas, aussi douloureuse, la blessure qu'elle avait par rapport à sa mère et au fait que sa mère en fait est non pas collaboré mais est vécue tout près du nid d'aigle d'Hitler, mm-hmm. parce que Romy Schneider a passé son enfance à Berchtesgaden, à la frontière autrichienne, et c'est vrai que ça a conditionné quand même pas mal de choses parce que par la suite,
disons qu'elle a sa mère, elle a une attitude ambiguë pendant la guerre,
voilà, exactement, elle a continué à tourner, j'ai retrouvé des documents où on voit qu'elle était exonérée d'impôts par le régime nazi et on a des images aussi, on la voit marcher aux côtés d'Hitler dans ses sommets.
Donc, Magda Schneider.
Exactement, Magda Schneider, qui était une comédienne très connue en Allemagne. Et en fait, c'est vrai que Romy Schneider a quand même souffert de ça. Je me suis rendu compte qu'elle en avait parlé à quelques personnes. C'est quelque chose, c'était une sorte de jardin secret qu'elle avait en elle, effectivement. Et qui a conditionné pas mal de choses, parce que même si on ne peut pas le certifier, mais elle a quand même appelé ses enfants David et Sarah. Donc, elle a aussi tourné le train, pas mal de rôles où elle était elle jouait une femme juive, comme dans La Passante du Sans-Souci, où elle recueille un enfant juif. Il y a le train, il y a le vieux fusil, évidemment. Donc, c'est vrai que c'était quand même quelque chose qui était en elle, et comme si elle voulait un petit peu racheter une faute qui n'était pas la sienne.
En plus, son beau-père a pas été très gentil, il lui a pris tout son argent.
Oui, alors ça, c'est très douloureux aussi, parce qu'effectivement, elle a tourné Sissi, elle est devenue, comme elle le dit elle-même, une sorte de poule aux œufs d'or, elle gagnait énormément d'argent. Elle a fait fructifier comme ça, à la fois les producteurs et puis l'argent familial, parce qu'elle était mineure, donc son beau-père gardait l'argent et le réinvestissait dans des restaurants qu'il tenait, lui, en Allemagne. Et Romy s'est rendu compte, au bout du 3e Sissi, que finalement tout l'argent qu'elle avait gagné n'était pas sur un compte en banque, mais simplement son beau-père l'avait complètement dilapidé.
Mais il avait le droit à ça ?
Elle était mineure, donc c'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'est ses parents qui disposaient de son argent. Magda Schneider, il faut savoir aussi qu'elle jouait sa mère dans Sissi, hein, elle joue la mère de Romy Schneider, et c'est elle qui s'occupait de tous les contrats. Donc à un moment donné, Romy s'est sentie un petit peu aussi prisonnière de tout ça. C'est pour ça qu'elle a dit non à un 4e Sissi et qu'elle a décidé de partir en France et qu'elle n'y reviendra justement pas avant très très longtemps en Allemagne.
Hervé, il faut faire attention avec vos sous.
Ah oui, hein. Il faut pas attention aux affaires de famille. Hein.
Ouais. Là, vous n'avez pas tellement d'argent, donc ça va pour l'instant.
Ouais, non, ça va. Pour l'instant, je suis fauché, ça va.
Ça va arriver. Mais vous êtes.
Toutes mes tantes, tous mes cousins qui m'écoutent.
Vous êtes hyper débrouillard parce qu'il paraît qu'à une époque, vous alliez aux puces de clients quand vous achetiez des baskets et vous les revendez dans les quartiers riches.
Ouais.
Sur le bon coin.
Ouais, c'est vrai, je faisais ça.
Mais c'est-à-dire comment.
En fait, au début, c'était la mode des baskets au tout début. Et moi, je vais aux puces depuis que je suis tout petit avec ma mère et tout. On allait tout le temps là-bas. Et forcément, les chaussures aux puces sont beaucoup moins chères. Mm-hmm. En fait, j'allais après dans. Je mettais la localisation dans le centre de Paris et c'était en plus de mon taf, ça me faisait des sous. Bon, c'est pas très légal, pas très malin, mais je faisais ça, en fait, ça marchait bien.
Donc vous vendiez des fausses baskets, en fait.
Voilà, c'est ça.
Comme des vraies.
Voilà. C'était
trop fiscal, tout ça.
Vous étiez quand même très courageux, en fait, parce que vous aviez un copain qui avait une société de multiservices.
Ouais.
Et vous avez fait du ménage, du nettoyage de vitres.
À fond.
Et vous commenciez genre à 5h du matin pour nettoyer du bureau.
Ouais.
Et comme ça, vous étiez libre à midi pour faire de la musique.
Exactement. Ouais, je faisais ça.
Et pour braquer la BNP, racontez aussi cet épisode.
Ça, il n'y a pas prescription. vu qu'on n'en parlait pas.
C'est dur de se faire connaître quand on est chanteur.
C'est pas évident. Hein. Moi, je... Les chansons, ça ne se commande pas, quoi. Donc ça vient ou ça vient pas, et quand ça vient pas, bah.
Mais là, on va écouter un extrait qui est venu.
Ouais. Ok, trop bien.
Ouais. On écoute. Mais dis-moi, dis-moi toi.
Dis-moi toi. Vous éraillez un petit peu votre voix quand vous chantez, hein?
Ouais, je sais pas pourquoi je chante comme ça. J'ai toujours chanté comme ça.
C'est vrai?
Ouais.
Moi j'aime bien.
C'est
bon. Moi je trouve ça fort parce que vous êtes auteur, compositeur, c'est ça?
Oui, et producteur aussi. Je fais les titres, tout dans ma pioche.
Et laveur de carreaux, c'est ça que je veux dire.
Je fais tous les arrangements, les prods, les batteries, tout ça.
Et ben on va écouter ça avec plaisir. Merci d'être passé nous voir, Hervé.
Merci à vous.
On rappelle votre premier EP Mélancolie Accès, 6 titres, disponibles sur toutes les plateformes. Merci à vous, Sarah Brillon. On rappelle cette très belle biographie de Romy Schneider. Romy, Longue lutte silence qui vient de sortir aux éditions Fayard.
Merci
à tous les deux.
Merci beaucoup.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est l'écrivain Alexandre Jardin qui sera notre invité. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Laurent Barra, Léa Londo, Jean-Philippe Vizini et notre invité ce matin qui est l'enfant terrible de la littérature française, écrivain mais également cinéaste. On lui a notamment le film Fanfan avec Sophie Marceau et Le Zèbre, adapté de son roman par Jean Poiret. Indiscret professionnel, celui qui a toujours aimé en dire trop sur sa famille, en dit aussi beaucoup sur Twitter. Aujourd'hui, il franchit encore une étape dans sa mise à nu littéraire, puisque dans son nouveau livre, Le roman vrai d'Alexandre, il promet de nous dire la vérité, toute la vérité. Le sincère Alexandre Jardin est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Alexandre Jardin.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Dans ce livre qui a des critiques dithyrambiques, Le roman vrai d'Alexandre, vous décidez de nous raconter la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Ça veut dire qu'avant, vous avez menti?
Et oui.
Oui.
Oui, oui. J'étais pendant très longtemps extraordinairement allergique à la réalité. Et parce que
à la vérité ou à la réalité?
Aux deux, ce qui fait beaucoup quand on additionne.
Vous essayez de sublimer, votre vie.
Oui, ouais. Oui. Et vous, c'était une catastrophe.
C'était pour survivre aussi.
Pour sauver ma peau. Dans une enfance en réalité strictement impossible.
C'est-à-dire vos parents étaient un petit peu particuliers.
En réalité, c'est très compliqué lorsque votre maman aime 3 ou 4 hommes qui ont leur chambre à la maison. En réalité, dans la réalité, les hommes sont obligés de gommer leur jalousie. Donc vous êtes dans un monde irréel. Après,
votre mère était très belle. Elle avait 3-4 amants en même temps.
Oui, oui.
C'était des couples libres, c'est comme ça qu'on s'appelle.
Ils se battaient pour elle.
Ah ouais.
Mais alors, ça peut sembler romanesque.
Oui, t'aimerais bien. Hein.
Je m'en doute, mais dans la réalité, c'est moins gay. Dans la réalité, c'est extrêmement violent.
Ah oui.
Et quand on est le gamin au milieu de tout ça,
vous ressentiez tout.
Je sentais qu'il manquait des morceaux du réel autour de moi. Et puis, doucement, je découvrais que ma famille.
Et votre père était lui-même un grand séducteur.
Oui.
Et en même temps, toujours amoureux de votre mère, qui couchait avec son meilleur ami, qui était Claude Sautet.
Oui, et tout ça faisait des enfants avec des filiations un peu compliquées et un rebondissement. Et puis je découvrais que mon grand-père, c'était pas un grand-père extrêmement cool. Je découvrais que c'était en vrai le directeur de cabinet de Pierre Laval. Donc je découvrais que tous les amis de la famille avaient été un peu payés par la SS comme agent de renseignement. Je découvrais que tel grand ministre gaulliste avait arianisé l'économie française avec grand-père en 41. Je découvrais un cauchemar.
Et vous allez bien sinon maintenant, ça va ou...
Je m'en suis sorti.
Wow.
Et c'est l'histoire de ce livre.
En vous inventant une vie.
Oui,
inventant
tout. Et puis papa est mort en plus. J'avais 15 ans. Et donc là,
lui, il était très jeune, il avait quel âge?
46.
Wow.
Et moi 15, qui faisait un peu tôt. Et je ne l'ai même pas vu mort. Puisqu'on m'a expédié au fond de l'Irlande. Je me suis retrouvé tout seul.
Vous ne parliez pas anglais, votre mère?
Non.
Mais elle est psychothérapeute, votre mère.
Oui. Elle a fait du chemin.
Les cordonniers.
Mais à l'époque, on était dans l'hyper-violence. Quoi. Donc je me suis retrouvé tout seul. Et puis j'ai essayé de me noyer.
De vous noyer, c'est-à-dire
en Irlande?
De me tuer.
Ah oui?
Elle est froide.
Et, oui, très. Et on m'a repêché. Et cet été-là, j'ai menti à tout le monde. Je n'ai pas dit que mon père était mort en France. Mais
quel a été le déclic pour tout à coup vous dire « c'est pas moi tout ça » ?
Alors, il y a eu des femmes importantes qui m'ont ramené vers la vie. Et puis le militantisme social, l'engagement.
C'est à vous qui étiez issu d'un milieu mondain, oui. De tout Paris, oui. De Jonchy.
De cinéma.
Oui, sans problème financier, oui. Ou en tout cas, tout se résolvait.
Eh bien, mes 15 années de militantisme...
Expliquez-nous ces 15 années de militantisme, les gens ne le savent pas forcément. Qu'est-ce que vous avez fait exactement?
J'ai monté énormément de programmes associatifs.
Il y avait lire et faire lire. Oui.
On fait lire 700 000 enfants aujourd'hui. On embarque les retraités français dans les écoles maternelles, primaires et
vous regardez le public quand vous dites retraité?
Parce que je me dis qu'il y a peut-être des bénévoles de lire et faire lire.
Oui.
On est 20 000 aujourd'hui, on a monté une armée et pour essayer de faire une nation de lecteurs, pour vraiment vacciner les enfants contre l'échec scolaire. Et puis on a monté énormément de programmes de ce type. Puis le mouvement des zèbres qui fédère aujourd'hui 300 mouvements sur le terrain.
C'est quoi les zèbres alors?
Les zèbres, c'est... les gens que j'appelle les faiseux, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de discours sur la France.
Mais qui agissent au quotidien.
Ouais, voilà, tel programme, qui trouve des solutions de transport.
Et ça vous a beaucoup apporté le militantisme, Alexandre Jardin, c'est ça qui vous a changé, transformé?
Ça m'a rendu amoureux de la vie. Paradoxalement, plus les gens sont dans la merde, plus ils se redressent.
Vous trouvez la réalité plus romanesque que...
Infiniment plus. Donc je me suis retrouvé dans un blocage absolu. Et lorsque j'ai décidé d'écrire ce livre, le roman vrai, j'en ai parlé à mon éditeur, et qui m'a dit « tu fais pas ça
». Il avait peur de tuer la poule aux œufs d'or, en fait.
Il m'a dit « tu ne fais pas ça, tu ne te tires pas dessus, on n'écrit pas contre soi, on ne dit pas ça ».
Et finalement, vous avez des critiques formidables. Il y en a qui disent que c'est votre meilleur livre.
Mais c'est ça qui est ahurissant, c'est-à-dire que moi j'étais convaincu de prendre des claques.
Mais quand on est sincère, on ne peut jamais se prendre des claques.
Il faut que je fasse la pause, Alexandre.
J'ai vraiment eu peur.
Alexandre, je dois faire la pause.
Je comprends.
Je bille.
Alors, annoncez la pause.
Puisqu'il faut faire la pause, faisons-la.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec notre invité très bavard, Alexandre Jardin. Il nous parle de son dernier roman, le roman vrai d'Alexandre, qui vient de sortir aux éditions L'Observatoire. Ne bougez pas.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Laurent Barral et Alando Benach, Jean-Philippe Bizini et notre invité Alexandre Jardin veut nous parler de son dernier roman, le roman vrai d'Alexandre, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Alors j'imagine que cette espèce de prise de conscience, Alexandre Jardin, dont vous parlez dans votre livre, de dire tout à coup la vérité, a dû changer vos relations avec vos proches, vos enfants, vos femmes, vos ex-femmes. Comment ça s'est passé?
D'abord, c'est extraordinaire, il faut le faire. Ça fait très très peur. Parce que ça veut dire renoncer à ses défenses. Et tous autour de la table, on sait très bien qu'on se raconte des trucs.
Non, pas moi.
Absolument. Bon.
Non, mais c'est enlever une carapace, quoi.
Oui,
c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Et or, tout le monde en a une. Hein. Ouais. Alors, moi, elle était très épaisse, parce que la vie m'a fait peur. Bon. Mais en même temps, peut-être que la vôtre est également très épaisse.
Ah oui.
Non, elle balance tout, elle.
Enfin, on en est tous plus ou moins là. Alors moi j'asphyxiais. Et lorsque vous faites ça...
Donc il y avait un mal-être quand même.
J'ai traversé 30 ans de dépression. Hein. Comme j'étais très poli, je souriais et je riais de manière très mécanique. Mais dans la réalité, j'allais très mal. Bon. Parce que j'étais absent.
Vous n'avez jamais été voir un psy, Alexandre Jardin?
Si, bien sûr.
Et alors?
Bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait le plus de bien. Ce qui m'a fait le plus de bien, c'est d'agir. C'est de militer.
C'est de vous rendre utile, en fait,
oui,
non?
Oui.
Donc, expliquez-moi, quand vous sortez ce livre...
De participer à la vie.
Quand vous sortez ce livre, le roman vrai d'Alexandre, vous, finalement, vous révélez que depuis des années, vous mentez sur ce que vous êtes.
Oui, que tout mon roman familial est
faux.
Oui, bien sûr, est une fiction.
Et donc, comment ont réagi vos proches, Alexandre
Jardin? Avec soulagement.
Ah oui?
Et en réalité, lorsque vous faites ça, quand vous le faites en vrai, vous faites du bien à tout le monde. Alors, c'est à la fois violent par moments, mais même s'il y a des engueulades... Vous faites du bien à tout le monde. Vous reprenez contact avec vos propres enfants. Parce que vous voyez bien que le type qui courait à la télé ou à la radio n'était pas l'homme qu'il voyait.
Le livre leur est dédié d'ailleurs, la dédicace.
Oui, bien sûr.
Vous avez 5 enfants en plus.
Oui.
Trois garçons, 2 filles.
Oui.
Même à vos enfants, vous mentiez en fait.
Non.
Non,
mais ils me voyaient produire un personnage public. Évidemment, on peut pas berner ses propres enfants. Mmh. Donc,
et maintenant, vous n'avez plus de personnage public, Alexandre Jardin ?
Ça m'intéresse plus.
Comment ça se fait ? Vous êtes détaché des vanités sociales ?
Ça ne m'intéresse plus.
Mais la soif du succès, de la célébrité, de l'argent, c'est fini tout ça ?
Je sais ce qu'il en coûte psychiquement. Ça vous sépare de la vie. C'est pas rien d'être séparé de la vie. À un moment, ça coûte très cher. Et puis à un moment, ça fait disparaître votre appétit de vivre. À un moment, même mon écriture tournait à vide.
Et là, vous avez l'impression que vous avez retrouvé la plume.
Oui, j'arrive enfin à écrire.
Vous l'avez écrit d'une traite d'ailleurs, ou ça vous a pris du temps ?
Je l'ai beaucoup réécrit parce que j'avais peur d'être à côté de moi. J'avais peur que le tricheur tienne encore la plume.
Donc, comment on peut faire confiance à un menteur d'ailleurs ?
Est-ce que vous ne trichez pas en racontant que maintenant vous racontez enfin la vérité ?
Commencez pas à le chauffer là-dessus, s'il vous plaît.
Est-ce que ce personnage ne va pas devenir votre nouveau personnage de l'homme qui dit la vérité ? Et ça va tout à coup devenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Sincère au départ, après vous allez le. C'est un peu ça le danger aussi avec les médias, c'est que tout à coup on projette une image et cette image devient plus réelle que le soi.
Alors il ne faut pas y croire, soi-même. Mais de toute façon, ce culte de la transparence dont on rebat les oreilles aujourd'hui, c'est absurde par rapport au monde extérieur. La vraie transparence, c'est entre vous et vous.
Et là, vous sentez mieux dans votre peau, Alexandre Jardin ?
Mais tant qu'on n'est pas un bloc de vérité, le bonheur n'est pas possible.
Et là, vous êtes heureux ?
Oui.
Donc en vrai, c'est votre vrai premier livre ?
Oui.
En plus, vous avez rencontré...
Non, après des gens très bien.
Oui.
Et vous avez rencontré une très jolie femme que j'ai vue l'autre soir.
Oui.
Et alors ?
Mais elle est belle... intégralement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très inconfortable, d'extrêmement lucide, d'extrêmement droit.
Vous l'avez rencontré en écrivant ce livre. Et vous pensez que c'est parce que vous avez écrit ce livre, que vous avez fait une mise à nu psychique, que vous avez pu rencontrer la personne qui vous correspondait vraiment.
J'étais prêt. Et je raconte dans le livre, d'ailleurs, ma rencontre avec elle. Et il n'y a eu aucun jeu de séduction, puisqu'on n'avait pas... c'est pas quelqu'un en face de qui on a envie de jouer. Donc, très rapidement, je me suis rendu compte...
Elle est commissaire ?
Elle est juriste.
Ah, d'accord.
Elle est juriste et elle a grandi dans le 9-3. Elle a un rapport à la vie extraordinaire. C'est absolument impossible d'être faux avec elle. Et j'ai écrit ce livre en dormant avec elle. C'est-à-dire avec quelqu'un qui n'était pas du tout dans... je n'avais pas la possibilité de me représenter.
Dans le paraître.
Oui,
dans
voilà,
le paraître
pas du tout. Ça. Absolument pas. Et je pense que tant qu'on n'aime pas quelqu'un en face de qui il n'y a aucune forme de comédie, je dis ça parce que j'ai fait un dîner avec des copains 10 jours avant la sortie du livre pour les prévenir, et j'aurais posé une énorme question. Je leur ai dit, mais est-ce que vos femmes vous connaissent ?
Et alors, c'était quoi la réponse ?
Ils ont tous rigolé, ils ont dit, ben non.
Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Hop.
On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission avec notre invité Alexandre Jardin. Vous venez parler de son dernier livre, le roman vrai d'Alexandre, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Laurent Barra, Léa Landau, Jean-Philippe Vizini. Et notre invité Alexandre Jardin venu parler de son dernier roman, Le roman vrai d'Alexandre, qui n'est pas un roman finalement, c'est une espèce de...
Mais c'est le vrai roman, c'est le plus puissant.
La vraie histoire en fait.
C'est celui du réel.
Ouais.
Et
qu'est-ce que vous allez faire maintenant alors, Alexandre Jardin, du coup ? Parce que là c'est comme un nouveau point de départ.
J'ai tellement divorcé d'avec moi pendant longtemps.
Vous avez divorcé de femme aussi,
oui.
En plus.
Ce qui est d'ailleurs assez logique, et d'éditeur et de tout. Parce que j'écrivais une littérature de fuite du réel. J'écrivais une île des gauchers, mais il n'y a pas d'île des gauchers. J'écrivais sur des héros qui proposaient une vision de l'amour qui n'existe pas, qui était onirique. J'avais établi mes quartiers dans un monde féerique.
Vous le dites d'ailleurs, vous dites, quand j'ai commencé à retoucher ma vie avec ma palette vive d'écrivain, ou plutôt à la remplir de mots pour chasser le silence, c'est eux tous qui ont continué d'exister à travers moi. Je leur ai été si fidèle, j'ai alors peint des sourires éclatants sur nos traits anxieux, estompé nos ambiguïtés, retiré toute l'ombre de nos visages et mis des fous rires à l'eau forte, là où il y a eu trop de larmes.
Ben j'arrête. Donc je vais passer à une littérature complètement différente, à une littérature du réel. Parce que
Vous n'avez pas eu peur que vos lecteurs ne vous suivent plus, Alexandre Jardin ?
Si. À un moment, je me suis dit peut-être que
ça marchera
plus. Le patron de Grasset avait raison. Peut-être que c'est un suicide. Mais
c'était... Donc vous ne l'avez pas sorti chez Grasset, du coup?
Ben non.
Parce qu'il n'a pas voulu.
Ben non, j'étais viré.
Ah, il a carrément dit...
Non, il ne voulait pas.
Il a dit quoi?
Il a dit non.
Et aujourd'hui, il dit quoi?
Merde.
C'est con, il l'a lu.
Vous
savez pas.
J'ai posé mon scooter en bas et j'ai été le déposer sur son bureau.
Ah, c'est vrai? En disant bah oui. Bonjour ou pas bonjour?
Il n'était pas là, je l'ai posé.
Et vous l'avez dédicacé?
Très bien. Oui, j'ai mis un mot. Mais je vais écrire complètement autre chose. Il y avait un divorce inouï entre ce que je produisais comme littérature et l'homme engagé que j'étais.
Et à un moment, ça ne pouvait plus durer, cette différence-là.
Oui,
en fait.
C'était pas possible.
Le gap devenait trop énorme.
Oui, voilà, ça devenait fou. Quoi. Mm-hmm.
Vous savez quel genre de livre vous allez écrire maintenant, dorénavant?
Tout à fait.
Quoi?
Une littérature extraordinairement engagée.
Ouais.
Quelque chose d'inouï est en train de se passer à l'intérieur du pays. Et pour l'instant, la littérature ne le voit pas.
Qu'est-ce qui est en train de se passer, Alexandre Jardin?
Il y a un renouveau français sur le terrain incroyable. Il y a une société qui, plus elle est acculée, plus elle est créative et puissamment romanesque et créatrice de héros réels. Comme au XIXe siècle, lorsque Hugo écrit C'est misérable, il y avait une société qui fabriquait des héros.
Vous allez écrire là-dessus?
Oui, bien sûr.
Sur les gilets jaunes?
Mais ça fait partie du roman français. C'est constitutif d'une société qui, à un moment donné, a essayé d'être vue.
Bah, si vous cherchez Cosette, on l'a, elle est juste en face de vous.
Je vais essayer de devenir l'écrivain que j'aurais dû être.
Mais c'est pas trop tard, Alexandre Jardin.
Non, non, non.
Mais vous regrettez rien de...
Pas du tout.
Ah ouais.
Pas du tout. Le mensonge m'a sauvé. Cette littérature de fuite m'a sauvé. Et la vie a beaucoup plus de goût.
Puis alors quand même, cette femme est magnifique avec qui vous êtes. Non, vous avez fait une critique.
C'est vrai, oui, on s'est croisés par hasard dans un endroit.
Oui,
quel genre d'endroit?
Dans une fête, mais je me suis dit, ouais, enfin...
Quoi?
Non, mais je trouve que pour les mecs, c'est plus facile. Quoi.
Et allez, on y revient.
Je savais.
Tu me vois,
mais
moi,
tu vas le trouver, toi, ton homme magnifique.
Elle est là, mais quand même.
Qu'est-ce que c'est?
J'étais heureux pour vous, mais ça m'a énervé aussi.
Elle a une drôle de façon d'être heureuse pour les gens. J'étais heureuse pour vous, mais...
tu verras.
Lisez la scène dans le livre de cette rencontre.
Et voilà, Anne, lisez la scène et puis ça va aller. Bon, faut enchaîner après ça.
Bernache a des choses à vous dire, Alexandre.
Oui. Alexandre Jardin, c'est la deuxième fois que je vous rencontre. En tout cas, c'est ce que je croyais. C'était avant de me plonger dans les 320 pages de votre dernier ouvrage. Et là, j'ai réalisé que l'an passé, j'avais rencontré le faux Alexandre Jardin. Du coup, enchanté. Je vous rencontrais. C'est dingue parce que quand je vous regarde, là, la ressemblance est frappante entre le vrai et le faux. Je connais d'excellents faussaires incapables d'arriver à un tel résultat. Vous avez réussi à duper des millions de lecteurs, moi-même, mais surtout vous. Par-dessus le marché, et ce depuis plus de 30 ans. Mais voilà, le masque tombe. Adieu Alexandre Jardin, le personnage. Bonjour Alexandre Jardin, la vraie personne. Dans une époque où tout le monde tente de paraître plutôt que d'être, dans une société où même l'over-transparence n'est qu'un voile de communication travaillé à la virgule, dans un monde où même le langage de vérité des politiques est dicté par des boîtes de com qui n'ont de vérité que leur devis à plusieurs zéros réglés par nos impôts. Alexandre Jardin, si votre démarche devient un effet de mode, j'ai hâte que toute la clique politicienne vous emboîte le pain. Parce que votre livre donne à réfléchir sur nos personnages à tous. À l'ère des réseaux sociaux et de l'hyper-représentation de soi, tout le monde aujourd'hui joue un rôle et je vous rejoins Alexandre Jardin, les masques doivent tous tomber. À commencer par ma camarade Léa Landau qui, loin de son personnage de célibataire de longue date, est en réalité mariée depuis 15 ans à Jean Bernard. Elle est également mère de 7 enfants que seule une dizaine de liposuccions a pu dissimuler. Jean-Philippe Visini n'est pas du tout ce père de famille à la vie bien rangée puisque sachez qu'il fréquente assidûment et en secret le mari de Léa Landau dans les backrooms les plus chaudes du quartier du Marais. Quant à moi, quand je vous raconte à longueur de chronique mes histoires de conquête amoureuse, je dois bien le reconnaître, je vous mens également honteusement. En réalité, ce ne sont pas des dizaines de femmes très jolies, mais des centaines hyper sexy. Oui, j'ai menti, on passe notre temps à mentir. Non, je ne suis pas bon en maths, j'arrive à peine à partager une addition en deux restaurants. Non, je ne suis pas nul en sport, j'ai juste mon impressionnante musculature chez moi quand je vais à la radio. Bref, nos chroniques sont comme vos précédents romans, des mythos qui jusqu'à maintenant nous éloignent de nos vérités. Mais pour vous, l'imaginaire et de la littérature, n'est plus un réconfort pardon, ou une douce illusion rassurante. C'est devenu un grand mensonge qui vous pèse jusqu'à vous tuer. C'est chose faite. Le faux Alexandre est mort. Vive le vrai Alexandre.
Merci.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Alexandre Jardin, de nous parler de son dernier roman, le roman vrai d'Alexandre, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Laurent Barra, Léa Landau, Jean-Philippe Vizini et notre invité Alexandre Jardin. Vous nous parlez de son dernier livre, le roman vrai d'Alexandre. Alors, les critiques sont très bonnes, Alexandre Jardin. Vous avez été soulagé de ça ?
J'ai surtout été absolument soulagé de ne pas être lynché.
Vous attendez à vous faire...
Oui, clairement. Oui.
Peut-être que les critiques mentent.
Peut-être.
Et les réactions de vos lecteurs, parce que vous avez un lectorat très fidèle, quelles ont...
Je pensais qu'ils allaient me cracher dessus. Quoi. Foutez-vous juste une seconde à ma place. Je veux dire, vous prenez une rame de papier, vous écrivez l'histoire de vos mensonges. Et tout à coup, je me suis dit, peut-être qu'ils ont eu raison chez Grasset. Peut-être que c'est peut-être un
suicide
intégral.
On est obligé d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui se livre et qui livre toutes ses faiblesses, toute cette carapace qui s'est mise sur toute une vie. On est obligé, en fait, d'aimer un vrai Alexandre.
C'est très touchant comme démarche, en fait.
Mais ouais.
Mais je ne le
sentais
pas.
Les femmes, ça nous fait craquer.
Ouais. C'est pour ça qu'elle est énervée que vous ayez rencontré.
non, mais honnêtement, ça fait extraordinairement peur.
Ouais. Et alors, vos lecteurs ont réagi comment, Alexandre Jardin ?
C'est très passionnant, ce qu'ils disent, parce qu'en fait, ils ont autant évolué que moi. Et ils ont la même soif de vérité dans leur propre vie. Alors, ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas. Ils sont dans des situations qui le leur permettent ou pas. Le courrier et les messages en privé ou public sur ma page Facebook ou autre sont d'une extraordinaire maturité. C'est-à-dire de gens qui s'interrogent, qui se posent des questions, qui supportent plus leur
masque. Parce qu'à un moment aussi, vous étiez une espèce de militant en disant aux gens, faut oser, bousculer votre vie. Et ça, c'est fini. Parce que
j'étais un trouillard invétéré dans ma vie.
Et vous étiez exalté quand vous disiez ça, je me souviens.
D'autant plus que ce n'était pas vrai.
Et vous ne le faisiez pas dans votre vie.
Ben non, mais je me suis tellement manqué. C'était
Mais cette prise de conscience, elle est venue d'un coup ou c'est venu progressivement ?
Par étapes. La plus grosse étape, ça a été de publier Des gens très bien. Parce que c'est...
Vous étiez dans la vérité tout
à coup. Oui, oui. Et avec la trouille au ventre, et justifiée d'ailleurs, parce que à l'époque, je me suis fait engueuler dans la presse. Forcément, parce que l'irruption du vrai dans une société, c'est quelque chose qui est violent.
En même temps, les gens n'ont jamais eu autant soif de vrai qu'en ce moment.
Oui, c'est ce que je découvre. Mais quand vous vous l'appliquez à vous-même, vous êtes un peu plus stressé que quand on en disserte de manière générale.
sur Wikipédia, vous allez mettre quoi comme date de naissance ? Alors la vraie ou celle très récente d'Alexandre Jardin ?
Si vous voulez me rendre un service, j'ai jamais compris qui écrivait cette page.
Bah ouais, moi non plus.
Comme il y a un tissu de mensonges extraordinaire sur ma page.
C'est vrai.
Oui,
vous pouvez la corriger vous-même, en fait.
Mais oui. Savais...
Donc vous n'avez pas du tout été gogo danseuse.
Vous mettez 2019 naissance.
Ça marche.
Léa Landau a des choses à vous demander, Alexandre.
Oui, Alexandre Jardin, parce qu'après votre livre, Le roman vrai d'Alexandre, vous allez connaître un autre succès, c'est l'interview sans mentir de Léa Landau. Le concept est simple, je vous pose des questions de toutes sortes et vous devez répondre sans mentir.
Oui.
Qui avez-vous le plus menti dans votre vie, Alexandre Jardin ? Vos parents ou vos femmes ?
Mes femmes.
Les femmes ? Mmh. Avez-vous déjà menti pour éviter une embrouille, justement, au quotidien, dans votre vie de couple ?
Oui, j'ai eu cette bassesse.
Existe-t-il des petits mensonges ?
Non.
Oui, ou un mensonge reste un gros mensonge ?
Toute forme de mensonge nous sépare de notre vie.
Et vous avez déjà menti sur votre âge ?
Non.
Non ? Même pour séduire ?
Non, je n'y ai pas pensé.
Vous avez déjà menti pour séduire ?
Oui.
Prodigieusement. Ça, c'est toi, ménage. Prodigieusement.
Prodigieusement.
Bien sûr.
Et alors, le vrai Alexandre aujourd'hui, si on lui offrait avec beaucoup d'amour un cadeau qui ne lui plaît pas du tout, est-ce qu'il ferait semblant d'être heureux quand même ?
Non.
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 Vous ne le mettriez même pas sur le bon coin, rien du tout ?
Non. Non, faut arrêter de vivre à côté de ses pompes.
Non, mais c'est bien. Mais est-ce qu'avoir un jardin secret dans un couple, c'est mentir, Alexandre Jardin ?
Je pense que si vous ne courez pas le risque, c'est absolument réel, dans votre couple, vous vous absentez de votre vie gravement. Et puis un jour, vous finissez dans le lit d'une autre, qui va vous accepter. Je veux plus de ces conneries.
Est-ce que le faux Alexandre Jardin mentait à son psy ?
Non.
Ah.
Non. Mais d'ailleurs, mon psy était contre ce livre.
Ah ouais.
Bah, il perdait un petit peu de consultation, du coup.
Tout mon entourage m'a dit
sauf, gaffe, sauf cette femme. Sauf cette nouvelle femme.
Ouais. Elle était.
Qui est trop belle pour vous, finissez votre phrase. Elle a envie de le dire. Mais qu'est-ce qu'elle fout avec ? C'est ça hein, qu'elle veut dire. Hein. Ouais, je la connais.
C'est vrai qu'elle est magnifique.
Et à quoi reconnaît-on un menteur, le premier truc ?
Il est absent.
Il est là, mais il n'est pas là.
Oui, il est pas là.
Ok. En couple, le plus gros mensonge, c'est tromper et ne rien dire ou faire l'amour en pensant à quelqu'un d'autre et ne rien dire ?
Les deux sont épouvantables.
Est-ce que vous m'avez menti pendant vos réponses, Alexandre Jardin ?
Non, ça ne m'intéresse plus.
Super. Et vous diriez quoi demain quand on vous demandera comment était l'émission avec Anne Romanoff ?
Je dirais que vous avez tous eu des regards extrêmement présents.
C'est vrai, parce qu'on ne ment pas ici. Merci, oui, Alexandre Jardin.
Vraiment.
Merci.
Anne Romanoff, l'histoire de la semaine.
Avant de se quitter, Alexandre Jardin, je vous propose de participer à l'histoire de la semaine. Le principe, le lundi, nous commence une histoire et nos invités de la semaine la complètent les uns après les autres jusqu'au vendredi avec chaque fois un mot à piocher dans ce chapeau.
Piocher. Roman.
J'aime bien une histoire d'amour, moi.
Ah oui. Ouais.
Pas avec l'autre. Mais pas avec l'autre.
Qui est trop belle pour vous.
Un roman extraordinaire commença lorsqu'il vit une femme sans beauté qui le bouleversa.
Oh. Waouh, très beau.
Merci Alexandre Jardin d'être passé nous voir. Rappelle votre dernier roman qui cartonne en ce moment, Le roman vrai d'Alexandre, aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.